Nous continuons notre parcours à travers Colossiens. Donc, si quelqu'un veut une Bible, donc il y a quelques Bibles là. Il y a deux là. Et donc, on est à la page 1184. Il y a d'autres Bibles aussi, ici à là, ici ou là, cachées derrière là. Donc, Colossiens, chapitre 2. Et le texte aujourd'hui, c'est chapitre 2, verset 16, jusqu'au chapitre 3, verset 4. On va lire ça. Colossiens, chapitre 2 et verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'une sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps ou la réalité est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui ne sont fondées que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humanité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morte et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, voie d'introduction pour le message, on voit à la fin du texte que l'objectif final, c'est d'être avec Christ dans la gloire. Donc, l'objectif final, c'est céleste, c'est d'aller au paradis et vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu. Donc, comme on a dit, on va être mort bien plus longtemps qu'on va vivre sur la terre. On va vivre quoi? 60, 70, 80, peut-être 100 ans sur la terre, et on va être mort et dans l'état éternel pour toujours et toujours. Donc, il n'y a pas de comparaison. C'est beaucoup plus important qu'on soit préparé pour cette longue éternité. L'espoir que Dieu nous donne en Jésus-Christ, c'est l'espoir pour les pécheurs. Que Dieu nous pardonne de nos péchés et que par Jésus-Christ, il ouvre pour nous le paradis pour l'éternité. Cette espérance découle de l'Évangile. Cette espérance découle de l'Évangile selon lequel Dieu est devenu un homme. Dieu, quand j'ai dit Dieu, je dis Dieu, l'unique Dieu. Je parlais avec un athée l'autre jour, il dit, mais quel Dieu? Pourquoi votre Dieu, c'est plus Dieu que les 20 millions de dieux des hindous, quelque chose comme ça. Hein? Mais je parle du Dieu créateur, je parle du Dieu qui est complexe, qui s'est révélé dans une deuxième et une troisième personne, dont nous disons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en parlant de la Trinité. C'est ce Dieu créateur dont on parle. Et ce Dieu est devenu un homme lui-même, afin de payer la dette de tous nos péchés. Quand il est mort sur la croix, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Puis le troisième jour, il a manifesté l'efficacité de ce paiement, l'efficacité de ce sacrifice. Quand il est revenu des morts, il a regagné sa vie. Et ça montre bien, ça manifeste bien plus clair que Dieu a totalement accepté le sacrifice de son Fils sur la croix. Et donc, par l'Évangile, Dieu pardonne nos péchés et Dieu nous donne la vie éternelle. Donc, deux fois dans le texte, on a cette phrase, « Si vous êtes », donc il dit « Si vous êtes mort avec Christ et si vous êtes ressuscité avec Christ ». Et cette phrase, ça veut dire « Du moment où vous êtes mort avec Christ » ou « Du moment où vous êtes ressuscité avec Christ » ou on peut le traduire aussi, puisque vous êtes mort avec Christ, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, eh bien, du moment où vous croyez que Dieu vous a pardonné et qu'il vous a donné la vie éternelle, il y a une suite logique qui revient au verset de mémorisation pour cette semaine et le verset en Romains chapitre 6. Mais là, on va lire dans Colossiens chapitre 2, versets 6, 7 et 8. Il y a un positif et un négatif. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans le message, on va voir qu'il y a un positif et un négatif. D'accord? Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7, pour le positif. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc, si vous êtes croyant en Jésus-Christ, marchez ou avoir un comportement qui est conforme à votre profession de foi. Vous vous dites chrétien, agissez comme des chrétiens. C'est ça que ça veut dire. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Alors, ces instructions-là qui nous ont été données se trouvent où? Eh bien, ils se trouvent là. Ce n'est pas un mystère, c'est tout simple, le christianisme est dans un livre. OK, c'est écrit, au moins dans ma Bible, noir sur blanc. C'est comme ça. On doit fonder notre foi, notre pratique de la foi, sur ce que Dieu a donné comme la base de la pratique chrétienne. Et au négatif, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Donc, on a déjà parlé de ces versets il y a quelques semaines. Mais le point, c'est qu'il y a d'autres gens qui vont dire, « Tenez, prenez ce livre-là, mettez ça à côté et moi, je vais vous donner une meilleure instruction. J'ai quelque chose de plus important à vous dire. » Eh bien, quand vous fermez ce livre-là, eh bien, vous ne connaissez plus ce qui est chrétien. Vous connaissez la philosophie, vous connaissez les traditions, etc. Mais vous ne connaissez plus ce que Dieu veut du chrétien. Donc, il dit, prenez garde. Et au verset 9, nous lisons, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Qui veut dire que quand vous avez Jésus-Christ, vous avez tout. L'objectif de la religion, quoi que soit la religion, c'est de rejoindre Dieu quelque part, n'est-ce pas? C'est mon optique. Si quelqu'un est religieux, c'est parce qu'il veut connaître Dieu. Eh bien, quand vous connaissez Jésus-Christ, qui est en lui la plénitude de la divinité, vous connaissez Dieu. Et d'après ce qu'on a lu tout à l'heure, il prévoit que nous passons l'éternité dans sa présence. Donc, vous avez tout en Jésus-Christ et il nous donne toute l'instruction nécessaire. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, et on ne va pas le chercher, il dit que Christ nous fait triompher. Il nous fait triompher dans cette vie et pour l'éternité. Donc, je vous ai dit toutes ces choses par voie d'introduction, d'accord? Donc, on va retourner au texte, Colossiens, chapitre 2, verset 16. Colossiens, chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, de nouvelle lune, ou des sabbats. Donc ici, on a en vue une référence à l'Ancien Testament, l'enseignement du judaïsme. Je ne dis pas que la parole de Dieu, l'Ancien Testament, n'est pas inspirée, mais c'était donné, il dit, c'était l'ombre, verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité est en Christ. Donc, Dieu a donné toute une formation, toute une instruction à travers les presque 2000 ans de l'Ancien Testament, mais c'était en comparaison avec Jésus-Christ de l'ombre. Donc, Jésus-Christ est le bâtiment ou l'arbre qui donne une ombre, et on peut apprécier l'ombre surtout quand ça fait 40 degrés, n'est-ce pas? Mais l'ombre n'est pas la réalité. L'ombre, ça nous montre simplement que la réalité est à côté. Et c'est ça, Jésus-Christ est la réalité. La vraie doctrine que Dieu veut qu'on assimile dans notre vie, c'est le christianisme, c'est la foi en Jésus-Christ et tous les apports que Dieu nous a donnés pour bénéficier dans cette vie et pour l'éternité à travers Jésus-Christ. Donc, dans le premier verset, il dit que personne ne vous juge. Alors, les gens vont vous juger. On était en train de parler avec des personnes, des jeunes hier. Et un monsieur, il dit, je suis athée, vous n'avez pas le droit à parler avec ces gens-là. Bon, on lui a expliqué que quand on a déjà le droit à parler avec qui on veut, mais qu'on a préparé des petites feuilles. Si un enfant, un jeune est intéressé par ce qu'on les a dit, on donne ce papier pour donner aux parents, pour dire aux parents que ben là, on a parlé avec vos enfants et vos enfants s'intéressent à ça. Et vous pouvez poursuivre ça si vous, les parents qui sont responsables, voulez poursuivre ça. D'accord? Donc après, bon, après, il a... Ah bon, d'accord, ok. Donc il a un peu accepté par la suite. Mais le point, c'est que les gens vont vous juger. Mais vous ne devez pas accepter le jugement. Ne vous soumettez pas à le jugement, à leur condamnation. Les gens, ils ont toujours quelque chose à vous critiquer. Mais ce n'est pas à vous d'accepter parce que Dieu vous a libéré de ces choses. Ok? Verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc ici, dans le premier verset, il avait en vue le judaïsme, les juifs de l'époque qui critiquaient les chrétiens. Maintenant, dans le verset 18, il focalise plutôt sur le paganisme, parce que les païens critiquaient les chrétiens aussi. Et donc, globalement, je raccourcis la phrase, que personne ne vous ravisse le prix. C'est comme votre vie est une course, et vous courez, et vous voulez gagner. Mais ça pourrait arriver que quelqu'un va vous mettre une doctrine ou une pratique qui va vous détourner dans une autre voie. Et ici, il dit, il ne faut pas vous détourner dans d'autres choses, parce que vous allez vous disqualifier. Et malheureusement, j'ai une bonne illustration de ça. Donc, quand j'étais jeune, voilà, c'est moi l'illustration. Quand j'étais jeune, donc, j'étais dans la natation. Et je participais dans une compétition, il y avait 5 courses. Et j'étais parmi ceux qui allaient. Donc, j'étais destiné à gagner. Je voulais gagner cette compétition. Mais auparavant, donc, quelques semaines ou quelque chose auparavant, un autre jeune m'avait dit que voilà, il y a une technique que vous pouvez faire, gna 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 gna. Et j'avais réfléchi. J'ai essayé cette technique dans cette course-là, dans un de ces 5 courses-là. Mais le juge m'a disqualifié. Oh, quelle honte. Ben, je pouvais continuer. J'étais pas disqualifié de la compétition. Mais je ne pouvais plus gagner. Bah, j'avais honte, même colère. Donc c'est ça. Dieu ne veut pas qu'on soit disqualifié de la compétition. Hein? Qui est-ce qui a jamais fait une compétition? Quelconque. Une compétition d'athlète. Non? Personne? Que moi? Oh, ça alors.
Même pas d'eux.
Ok, ben, vous comprenez. Il y a des choses qui peuvent arriver et qui peuvent Donc vous croyez que c'est bon, vous suivez ça. Et vous vous trompez. Vous vous cassez la figure, spirituellement parlant, n'est-ce pas? Eh bien, il dit ici qu'il y a plein de tromperies et il focalise dans le paganisme, il focalise ici sur les visions, sur le culte des anges. Et pour vous dire, c'est le problème numéro un dans le christianisme. C'est ce désir de suivre les visions et les esprits. D'accord? Donc vous dites, qu'est-ce que vous en parlez? Je parle donc de tous les sectes, par exemple, que ce soit les témoins de Jéhovah, ou les mormons, ou l'islam, ou même dans le catholicisme, il y a Marie qui s'est présentée ici, et notre vision de Marie là, et puis le pape parle comme s'il y avait des dieux ici et là. Il y a plein de fois que les gens dans la religion prétendent avoir des choses en plus. D'ailleurs, des gens qui ont dit, « Ah ben, la Bible est bien, mais nous avons en plus ceci et en plus cela. » Eh bien, quand on prend le « en plus », on s'attache à cet « en plus » et on se disqualifie. Attention. Attention. Et donc, il dit dans le verset 19, donc il parle de ce problème, sans, donc les gens qui trompent les autres, sans attachés au chef, donc ils ne sont pas attachés au chef, c'est-à-dire à Jésus. Donc le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc l'idée, c'est que nous devons nous attacher à Jésus-Christ par la parole de Dieu pour avoir la nourriture spirituelle que Dieu a prévue pour l'esprit. C'est à travers la parole de Dieu qu'on nourrit l'esprit. Et donc, on arrive maintenant dans les deux parties qui parlent de « puisqu'il est vrai que » ou « s'il est vrai que » ou « du moment où c'est vrai que ». Ok, donc on va avoir ces deux choses. Le premier est négatif et le second est positif. Ok, versets 20 à 23. « Si vous êtes morte avec Christ, donc pour vous qui sont croyants en Jésus-Christ, puisque vous êtes morte avec Christ. Et pour vous qui ne sont pas chrétiens, si jamais vous devenez chrétien, si jamais vous croyez en Jésus-Christ, eh bien, ça deviendrait vrai à votre égard. Si vous êtes morte avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Quelque chose de valeur réelle correspond à Dieu. Ce que Dieu considère de valeur. Ce qui correspond à la personne, la volonté, la vie de Dieu. OK? Ça, c'est vrai. Ça, c'est le réel. Mais ici, on parle, au négatif, des enseignements religieux simplement humains. OK? Et il y en a plein dans le monde. D'accord? C'est pas un petit... C'est la globalité de l'humanité. Suis tel ou tel enseignement religieux. Après que j'ai parlé avec un autre athée cette semaine, donc je suis allé sur Internet et bien sûr, vous trouverez la phrase « la religion athée ». C'est une nouvelle phrase. On ne disait pas avant, mais maintenant, puisqu'il y a tellement de pratiques athées et certaines sont spiritistes, eh bien, on parle maintenant de la religion athée. D'accord? Donc, il y a plein d'enseignements et de pratiques religieuses humaine, d'accord? Et en négative, la parole nous dit de nous séparer de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est sans valeur réelle. Et ça a la tendance de nous dévier en autre chose. Donc, il parle, au début, il parle des abstinences religieuses. Ne touche pas, ne mange pas, ne fête pas. OK? il y a toujours des groupes religieux qui vont nous dire, si vous ne touchez pas, si vous ne mangez pas, si vous ne ceci pas, eh bien, vous serez meilleur chrétien. Pourtant, la parole n'en parle pas. Et si la parole n'en parle pas, c'est que ça n'a pas de valeur réelle. Attention, il dit à la fin qu'il y a une certaine valeur. Mais la valeur, c'est seulement que ça me fait sentir mieux en tant qu'être humain. Mais vis-à-vis de Dieu, ça ne donne rien. Ah, mais j'ai fait 10 jours sans manger. Je suis à jeûne et je me sens fort. Bon, d'accord. Mais ça ne vous a rien gagné vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'éternité. Et si vous continuez 60 jours, vous serez déjà mort depuis 10 jours, peut-être des 20 jours. Hein? Ça ne concerne que satisfaire à notre humanité. Après, il parle de l'abus de l'autorité religieuse. On impose ces règles. Donc, premièrement, on se soumet à telle autorité religieuse. Et puis l'autorité dit, vous ne faites pas ça et vous allez faire ça. OK? Vous comprenez, c'est quand on entre dans une secte ou quand on entre dans telle ou telle religion, les gens, ils vous disent, vous devez faire comme ça parce que c'est comme ça qu'on fait chez nous. Et on ne fait pas cela. OK? Le problème, c'est que toujours dans ces pratiques-là, on arrive à faire des abus des gens. On les manipule. Et normalement, je ne parle pas contre l'Église catholique, mais c'est l'exemple le plus net à travers le Moyen-Âge, quand ils faisaient tellement d'abus que ça a donné des révolutions comme la Révolution française, etc. Ben, ils abusaient. Et les gens faisaient confiance à ces enseignements humains. Et à la fin, ça les faisait du mal, du mal, du mal. Et donc, on s'est rebellé contre toutes ces choses-là. On doit faire attention pour les abus religieux. Il n'y a rien de divin dans les choses qui ne sont pas vraies. C'est que humain. Et après, il parle aussi, donc, en plus de ces problèmes de religion humaine, que ça semble être bien. Ça semble être spirituel. Il y a plein de monde qui pratique ça. Je pense qu'il y a peut-être plus de bouddhistes que de chrétiens. Il y a peut-être plus de hindous que de chrétiens. Il y a autant de musulmans que de chrétiens. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas chrétiens. Ces doctrines semblent, ces pratiques semblent être bien. Ils ont une apparence d'être sages. Pourtant, le texte dit, ils sont sans valeur réelle. Il y a une victoire dans le côté humain, comme j'ai utilisé l'idée des abstinences, des jeûnes et les choses comme ça. Il y a plein de choses, le véganisme, etc., où on s'abstient de certaines nourritures, etc. Pourquoi? Parce que, bon, on pense que c'est bien. Mais il n'y a pas une phrase ici qui dit que nous devons faire ça. Si on ne veut pas manger quelque chose, bon, on a le droit. Mais ça n'a pas une valeur éternelle. C'est une valeur humaine à moi. Parce que moi, je veux faire ça. Mais il n'y a pas une instruction divine qui nous dit de faire ça. Sans valeur réelle, parce que c'est seulement une satisfaction pour moi. Attention, quand même, c'est très attirant. Hein, le bouddhisme, c'est attirant. Le véganisme est attirant. Le catholicisme est attirant. Il y a plein de pratiques, plein de choses. J'étais, pour l'échange culturel, j'ai invité les prêtres à venir. Mais il fallait que j'attende dans leur salle. Et ils ont genouillé devant l'hostie et tout ça. J'étais un peu surpris de voir que même aujourd'hui, on continue à faire ce genre de choses derrière les portes. Ça a la semblance d'être un acte religieux. Pourtant, l'adoration d'un matériel n'est pas l'adoration de Dieu. Donc, ça semble. La Bible dit que toutes ces pratiques et ces abstinences, entre guillemets, spirituelles, sont inutiles et deviennent est dévie de la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons nous séparer de toutes ces choses-là. Donc ça, c'est au négatif. Au positif, verset chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité Christ, avec Christ, donc puisque vous êtes ressuscité avec Christ, au moment, du moment où vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morte et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et puis il termine, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors plusieurs choses qu'on voit ici, j'ai déjà expliqué dans les deux, trois messages auparavant que vous pouvez retrouver sur Internet. D'accord? Donc on ne va pas entrer dans les détails avec toutes ces phrases. Mais je voudrais simplement dire au positif, quand il dit de méfions-nous de toutes ces pratiques religieuses humaines, mais il dit aussi attachez-vous à ce qui est de Dieu. Et comment faire ça? C'est à travers la parole. On connaît ce que Dieu veut parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Donc, il veut qu'on s'attache, on focalise sur les sujets célestes. D'accord? Le verset de la semaine dernière, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces autres choses vous seront rajoutées par-dessus. Donc, Dieu sait qu'on a besoin des choses sur la terre. C'est pas comme c'est le mysticisme ou quelque chose comme ça. On a besoin du quotidien, on a besoin d'un travail, du salaire, de nourriture, de vêtements, tout ça. Mais en premier, on doit chercher les choses de Dieu. Et Dieu pourvoira pour ces autres choses. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça au chapitre 2, verset 7 à la fin. Et abonder en actions de grâce. Donc Dieu pourvoit et nous devons être reconnaissants. Abonder en actions de grâce. Soyez très reconnaissants. OK? Il dit ici dans le verset 3, donc le premier verset, et verset 1 et 2, chapitre 3, verset 1 et 2, on doit attacher aux choses de Dieu, les choses de Christ, les choses dans les cieux. Attachez-vous. Mais au verset 3, il dit, car vous êtes morte et votre vie est cachée avec Dieu en Christ. Donc, je vais vous lire dans Jean, chapitre 10, juste deux versets, pour donner une idée de ce que ça veut dire d'être caché en Christ. Vous êtes caché en Christ. Jean, chapitre 10, versets 28 et 29, je vais vous le lire. Il parle de brebis, donc les brebis, ça représente les croyants. Je leur donne, donc je donne aux croyants, la vie éternelle. Et elles ne périront, et elles, donc les croyants, les brebis, ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grande que tous, de toutes choses, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous sommes cachés en Christ. Dieu ne voit plus aucun péché qui pourrait nous faire condamner parce que Jésus a tout payé, tout couvert, tout effacé. Il n'y a plus rien. Et donc, on est caché par la foi en Jésus-Christ. Et donc, il finit en disant, quand Christ, qui est donc maintenant votre vie, paraîtra, donc en parlant de l'avenir, et on va parler un petit peu de l'avenir à la conférence cet après-midi à 16h, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pour insister sur le fait que notre avenir n'est pas sur la terre. Je parlais avec deux témoins de Jéhovah hier. Ils ont dit à notre voisin, il dit, « Ah, mais monsieur, la chose la plus importante, c'est que vous viviez sur la terre. » Et j'ai dit, « Ben, vous savez, monsieur, que la Bible dit bien que toute notre existence va disparaître. » Ça va être tout détruit. Et si vous êtes seulement sur la terre, vous allez disparaître aussi. Le plus important, c'est que vous avez la vie éternelle et que vous allez passer l'éternité dans la présence de Dieu, dans les lieux célestes. Et c'est ça que Jésus, ici encore, dit que vous, les croyants, serons dans la gloire céleste avec Jésus-Christ. Caché en lui, Dieu ne voit plus du tout de péché. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Voilà quelques pensées pour vous, on va dire, édifier, j'espère, ou pour vous faire réfléchir. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez parler un peu plus de ces choses, n'hésitez pas à en parler.